Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup pour la participation massive. On voit un grand intérêt pour ce séminaire et au nom des for Development Center et de The Shift, je suis ravi de pouvoir vous accueillir ce matin. Vous connaissez certainement le Trade for Development Center d'Enable, le TDC, qui promeut et soutient le commerce équitable, un commerce durable, notamment via l'appui à des entreprises en Afrique et via la co-organisation de la Semaine du commerce équitable dans notre pays qui aura lieu très prochainement. Et il a aussi pour mandat d'analyser les évolutions de la durabilité. Et ces deux débats ce matin rentrent totalement dans le mandat du TDC. En effet, l'époque que nous vivons et les crises répétées qui s'additionnent, changement climatique, la crise du Covid, l'explosion des inégalités, les déforestations massives, des pertes majeures au niveau de la biodiversité, etc., nous amène à repenser nos échanges commerciaux. Peut-être, et c'est ce qu'on voit déjà en relocalisant certaines activités, mais aussi, et c'est un sujet qui me tient à cœur, en évitant que cette tendance augmente les inégalités plutôt que de les réduire, puisqu'on doit analyser l'inégalité non seulement dans sa dimension belge ou européenne, mais dans sa dimension mondiale. Et en tout cas, c'est comme ça chez Enable, on les analyse. Et donc, il y a la relocalisation actuelle d'entreprises en Europe peut recréer d'autres inégalités dans d'autres parties du monde, et il faut en être conscient. Et je serai ravi d'écouter tout à l'heure dans le premier débat Indra Dagouspa qui nous parlera de l'impact dans son pays. Nous aurons aussi tout à l'heure dans le deuxième débat l'occasion d'accueillir le commissaire européen Didier Reynders, commissaire européen à la justice, et je le remercie pour sa présence. Et ce sera un débat sur la responsabilité sociétale des entreprises dans leur filière d'approvisionnement et la récente initiative législative européenne en matière. Mais avant ça, place au premier débat dans lequel nous allons analyser les conditions dans lesquelles le commerce équitable peut contribuer à une transition écologique et solidaire. Je vous souhaite de bonnes discussions. Merci encore à tous les participants et aux organisateurs. Merci aussi à Marie, à qui je vais donner la parole de The Shift. Merci beaucoup, bonne journée.
Voilà, merci Jean. Welkom iedereen en hartelijk dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Deze periode laat ons niet toe om jullie allemaal persoonlijk te ontmoeten, maar ik ben ervan overtuigd dat we met dit sterprogramma van deze morgen, ook al is het virtueel, duurzame impact kunnen creëren. En dat is juist de missie van The Shift. Om samen met onze 460 leden willen we de transitie naar een duurzame wereld realiseren. Een transitie die niet alleen mogelijk is door nauwe samenwerking van actoren van de maatschappij, dus zowel bedrijven, NGO's, academische en publieke instellingen. 3 jaar geleden kreeg onze organisatie de opdracht van BG Ontwikkelingssamenwerking om via het Belgian SDG Charter for International Development internationale partnerschappen uit te breiden en te versterken waar nodig. Dus als netwerk in contact met verschillende stakeholders begrijpen we dat elke actor zijn eigen uitdagingen heeft. Dus als supply chains bijvoorbeeld lang en soms heel complex zijn, kan het nog eigenlijk uitdagender zijn om duurzame productiepraktijken te garanderen. Fairtrade-certificeringsprogramma's zijn een uitstekende eerste stap natuurlijk, maar een betere kennis en meer concrete en impactvolle engagementen van organisaties zijn ook nodig om de impact in de producerende landen te beheersen en zo bij te dragen aan de sociale en ecologische transitie. Om dit te bereiken weten we dat partnerschappen de sleutel zijn tot het co-creëren van oplossingen waar iedereen baat bij heeft. Er bestaan tal van vrijwillige initiatieven om toeleveringsketen te verduurzamen. Maar toch blijkt een wettelijk kader noodzakelijk om alle actoren aan te sporen tot samenwerking. Sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, ontwikkelen wettelijke kaders voor due diligence en mensenrechten. De Europese Commissie werkt onder leiding van commissaris voor Justitie Didier Reynders aan een wetgevingsvoorstel voor bindende zorgvuldigheidsnormen, dat in 2021 zal worden ingediend. Wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven voor wat er in de toeleveringsketen gebeurt? Waarover moet een bedrijf rapporteren en hoe kan zijn bijdrage in de praktijk maximale impact creëren? Wat moet een wetgeving omvatten en hoe kan het nog ruimte laten voor vrijwillige initiatieven? In het tweede debat zal commissaris Reinders de komende Europese due diligence legislatie kort toelichten. En daarna zullen David Koleman van Mars, Sarah Vaas van Oxfam België en Sarah Geenen van Universiteit Antwerpen daarna ook hun inzichten geven. Ik wens jullie allen een leerrijke sessie en ik geef nu het woord aan Harald.
Dankjewel, mevrouw Delvaux. As Mr. Van Wetter pointed out, the first topic for this morning's debate will be on fair trade in times of crisis. And joining me in that discussion are four marvelous panelists, and I'm very happy to introduce them to you. Om te beginnen hebben we Willem Olthoff van de Europese Commissie, meer bepaald van het Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Hij is daar adjunct hoofd van de eenheid Plattelandsontwikkeling, Voedselzekerheid en Voeding en heeft jarenlange ervaring in beleidsontwikkeling op vlak van landbouw, voedselzekerheid en voeding en in de samenwerking met de zogenaamde Horen van Afrika, met name Ethiopië. Bovendien gaf hij ook nog les aan de Universiteiten van Zimbabwe en Addis Abeba. Meneer Olthoff, welkom. U vertelde me dat u uw interventies zult doen in het Engels, dus doet u dat gerust, hè, omdat u het zo gewend bent in uw professionele leven. Hartelijk welkom. Notre invité suivante sur ce plateau virtuel nous rejoint de France. Je vous présente Julie Maison-Haute. Elle travaille comme déléguée générale adjointe pour Commerce Équitable France, où elle est responsable des filières françaises et celles des territoires. Avec tant d'années d'expérience, soit en tant que coordinatrice de la plateforme française pour le commerce équitable, soit au sein des coopératives agricoles et une pratique terrain des filières biologiques, on peut dire qu'elle connaît le commerce équitable comme sa poche. Ravie de vous accueillir parmi nous, Madame Maison-Haute. Soyez la bienvenue. Joining us from the other side of the world, from India, is Indro Dasgupta from the Craft Resource Center. He's an independent board member of the World Fair Trade Organization. And Mr. Dasgupta earned his PhD in economics from the Southern Methodist University in Dallas, Texas, where he also serves as adjunct professor in economics. He firmly believes that income generation for marginalized artisans through fair trade is one of the most viable routes to alleviating the alarming and chronic levels of poverty and income inequality that we observe in the world today, which is why we are very happy to have him here to join us for this morning's discussion. Welcome, Mr. Dasgupta. Notre quatrième intervenant ce matin nous vient de Mons, Belgique, le directeur de Fairtrade Belgium, Nicolas Lambert. Après une carrière de près de 20 ans dans l'industrie alimentaire en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, c'est depuis 2016 qu'il occupe le poste de directeur de Fairtrade Belgium. Il a été élu Marketeer of the Year par le magazine Trends et Stima, et le magazine Pub et Luba lui ont octroyé le prix de Advertiser Personality of the Year. Tout pour vous dire que nous n'avons pas choisi les moindres des personnalités pour ce débat. Bienvenue, Monsieur Lambert. J'aimerais aborder trois sujets avec vous, mes chers invités, ce matin. La crise du COVID-19 et son effet sur le commerce équitable, puis la transition du commerce équitable par rapport à une approche plus écologique. Et pour terminer, qu'en est-il d'une éventuelle relocalisation du commerce? Concentrons-nous d'abord sur l'effet du COVID-19 sur le commerce équitable. Et j'aimerais bien commencer par vous, Monsieur Lambert, si vous me permettez. D'abord, pour situer le contexte en général, en quelques mots, quels sont les caractéristiques d'un produit équitable?
Alors, de manière générale, hein, donc le commerce équitable, c'est un commerce qui fait l'objet d'un échange équilibré et transparent entre les parties. Et notamment qui va se focaliser sur le principe d'équité et sur le principe d'une rémunération juste du travail des producteurs. Donc ça, c'est le commerce équitable, c'est le principe de commerce équitable en général. Et puis, de manière plus spécifique, à la certification Fairtrade. Hein, Fairtrade est une des organisations qui est active dans le commerce équitable, où là, ça se matérialise notamment par la garantie d'un prix minimum, par exemple, pour la production des agriculteurs, par le paiement d'une prime de développement aux organisations de producteurs qui leur permet en fait de se renforcer de manière structurelle, et par le respect d'un certain nombre de normes sociales. Hein, bon, on pense au travail forcé des enfants, à l'esclavage, etc., et environnemental. Donc voilà. Et tout ça, je dirais aussi avec un principe qui est très important, qui est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français, mais qui est l'idée de mettre vraiment le producteur au centre et de faire en sorte que le producteur soit autonome. C'est-à-dire, c'est pas un système qui va s'imposer au producteur, mais c'est un système qui va redéfinir un cadre dans lequel le producteur lui-même va pouvoir se développer.
Et dans quelle mesure est-ce que la crise du Covid qu'on a connue récemment, qu'on connaît toujours, dans quelle manière est-ce qu'elle a impacté ces phénomènes-là?
Alors, je dirais qu'il y a des impacts à plusieurs niveaux. Hein. Il y a évidemment l'impact sanitaire, et je dirais particulièrement dans des pays où les infrastructures sanitaires justement sont parfois défaillantes. Ben c'est sûr que les populations sont d'autant plus touchées. Et ensuite, il y a aussi un gros impact économique, puisqu'on sait déjà que ce sont des populations qui sont fragiles au niveau économique, hein, je parle bien au niveau économique, hein, au niveau souvent mentalement, elles ne sont pas fragiles du tout. Hein, c'est des gens qui en général ont beaucoup d'énergie et qui ont beaucoup de sens de l'entrepreneuriat, etc. Mais économiquement, ils sont défavorisés. Et alors, cette crise va ajouter aussi à ça au niveau économique, parce que les marchés sont perturbés. Hein, on voit des fluctuations de prix très importantes dans le marché du café, par exemple, pour le moment. On voit des baisses de demande dans certains marchés. Et puis, simplement aussi, les opérations sur place sont perturbées. Hein, les ouvriers peuvent plus difficilement se rendre dans les plantations pour les récoltes. Il y a des limitations au niveau du transport sur place. Et donc, on voit que, on le voit chez nous aussi, hein, c'est une crise qui touche d'autant plus les gens qui sont précarisés. Et donc, ça vaut aussi pour pas mal de producteurs des pays d'Afrique ou d'Amérique latine.
Et notamment à ce point-là, en fait, quelles mesures ont été prises ou ont été mises en place au niveau de Fairtrade International ou bien Fairtrade Belgium pour aider ces producteurs?
Oui, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses. Je parlais tout à l'heure de la prime du commerce équitable, hein, qui est ce supplément de prix qui est versé aux coopératives pour qu'elles puissent se renforcer. On a assoupli notamment les règles de dépenses de la prime. Normalement, ça doit servir plutôt à des investissements à long terme. Et ici, on a permis aux coopératives de plus utiliser cette prime aussi à plus court terme pour faire face à la crise. Il y a également un fonds de soutien qui a été créé au sein de Fairtrade, où on a permis aux organisations agricoles d'avoir accès à ce fonds pour notamment investir dans la sensibilisation, pour investir dans de l'équipement, hein, vous savez, comme ici, hein, des masques, du gel, etc., pour aussi pouvoir faire face aux coûts de production plus élevés. Puis je dirais de manière plus fondamentale, je crois que la première chose que nous demandent les agriculteurs, ben c'est de faire en sorte que les marchés ne soient pas fermés, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, ils puissent toujours avoir accès à ces marchés, que ces marchés continuent de se développer, parce que ça, c'est la source de tout, évidemment. Hein. S'ils n'ont pas ces accès au marché, s'ils n'ont pas ces accès à des prix et des meilleures conditions commerciales, ben, la crise va évidemment les impacter d'autant plus fort.
Monsieur Althoff, Mr. Althoff, excuse me. Talking about these measures that have been taken on a European level, what measures has the European Commission taken to help these vulnerable populations? I know you don't like the term vulnerable for these populations, but what measures have been taken by the European on the European level?
Okay, thanks, and good morning to all. I do hear an echo. It's gone now. Thanks.
We can hear you clearly.
Thank you.
Thanks.
At the European level, yes. What happened in the beginning of March, when the COVID crisis really spread through the world, we in the European Commission, and then particularly in the development side, we came together and had a look at basically our entire portfolio as to what could we do. And the reaction has been quite quite quick, in the sense that every delegation of the European Union around the world looked at its portfolio and looked at what could we do in terms of rearranging it, advancing some projects, reorienting it, finding some extra money in the portfolio in order to address issues around COVID. And that resulted in a package that was basically put on the table of about 15 billion around the world. This is not only developing countries, but it was external, and most of it in developing countries. And that included measures around health. It included measures around macroeconomic assistance in order to allow governments to react. But it also included a number of reactions on, particularly on food security, scaling up safety nets, for instance, assisting where food crises already existed. And we have to say that COVID actually came on top of existing crises around the world. One of the things that the European Commission does is to work with partners in the so-called Global Network Against Food Crisis. And annually a report is produced also with quite some support from the European Commission, mapping quite clearly where and what the causes are of food crisis and how many people are affected. That included this year a report that came out just before the COVID crisis, right, and clearly indicated 135 million people around the world facing acute food insecurity. In other words, you really have to do something immediately in order to help them save their lives, their livelihoods. Last week or 2 weeks ago now, we saw an update of this figure, and we saw that COVID has added another one third or 32% to the number of people affected by food crisis. And some countries where you saw a really big increase, like Burkina Faso, the DRC, but also Somalia, Yemen. Mm-hmm. With various causes, most of it related to conflict, insecurity, but clearly COVID had an effect. So we put on the table this package. We continue to do so. The package consists of humanitarian assistance, as I mentioned, scaling up safety nets, providing food assistance, but also providing agricultural implements, inputs, interventions in livestock, interventions in water and sanitation. Mm-hmm. It's a big package in that sense.
On a broad scale, I suppose. Yeah, okay. Thank you very much. Passons en France. Madame Maison-Haute, vous êtes responsable des filières Origine France chez Commerce Équitable France. Et quel impact la crise du COVID a-t-elle eu sur les producteurs locaux du commerce équitable?
Oui, alors juste peut-être pour préciser, Commerce Équitable France, parce que le nom n'est peut-être pas tout à fait transparent, c'est la plateforme du commerce équitable qui rassemble les principaux acteurs, aussi bien sur les filières internationales que françaises maintenant.
Okay.
Donc en fait, ce qu'on a observé, notamment pendant le confinement, c'est qu'effectivement, la consommation des Français a très largement évolué. Et on a eu un boom de demandes, mais en fait, sur les produits de base, qui ne sont pas que des produits locaux. Donc ça, déjà, c'est intéressant à observer, c'est-à-dire qu'on a eu des booms de demande pour de la farine, par exemple, très fortement, des œufs, mais aussi du sucre. Alors, il y en a en partie qui est français, une partie qui vient d'ailleurs, et du chocolat aussi. Donc, en fait, cette question-là, elle a impacté aussi toutes les filières de commerce équitable.
C'est ça.
Pour ce qui est de la demande vraiment locale, je dirais qu'il y a eu un peu deux choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une demande très locale qui a plutôt touché les producteurs qui sont en circuit très court, en fait, qui vendent en vente directe ou sur les marchés de plein vent, par exemple. Et là, il y a eu des choses qui se sont organisées un petit peu au pied levé, je dirais, des producteurs qui se sont organisés entre eux pour répondre à cette demande des consommateurs. Mais je dirais que ces producteurs ne sont pas les premiers engagés dans des filières de commerce équitable, parce que le commerce équitable, il est finalement plus approprié, y compris sur les filières locales françaises, sur des filières un peu plus longues, puisqu'effectivement, en circuit court, les producteurs finalement maîtrisent leur prix de vente. Hein, ils peuvent donc s'assurer qu'ils vendent à un prix équitable pour eux, on va dire. Sur les filières longues, c'est là qu'on a le plus de risques que, comme dans les filières internationales, les producteurs soient un peu le maillon faible, on va dire, et qu'ils aient une faible maîtrise des prix pour l'entente de produits. Et donc, pour ces producteurs-là, donc on a aujourd'hui des filières organisées en France, hein, on pourra y revenir tout à l'heure, on a eu effectivement, je dirais, une désorganisation du marché, à la fois des demandes fortes pour certains produits, à la fois une disparition de certains marchés, notamment tout ce qui est restauration collective, hein, que ce soit les cantines scolaires, les cantines dans les entreprises ou même les restaurants, hein, qui ont fermé pendant une période assez longue. Et en fait, ce qu'on a pu observer, qui était très intéressant, c'est l'intérêt des partenariats, en fait. C'est-à-dire que ces organisations de producteurs avaient engagé depuis des années des partenariats avec des entreprises, avec des distributeurs. Et c'est ces partenariats-là, cette interconnaissance qui a permis de trouver des solutions. Donc, par exemple, effectivement, des groupements de producteurs qui, sur du frais, hein, des fruits et légumes, par exemple, livraient fortement des cantines. Et ben, leur partenariat avec des réseaux de distribution, comme par exemple le réseau de distribution Biocoop, a permis de trouver des solutions pour que les magasins bio, par exemple, absorbent un volume plus important de production. Les questions, elles étaient aussi logistiques, tout simplement, effectivement, de trouver parfois… une main-d'œuvre moins nombreuse, à la fois sur les fermes, dans les entreprises, dans la logistique, dans les coopératives, mais aussi des fois des questions qui ont l'air toutes bêtes, mais d'emballage, en fait, de faire en sorte de pouvoir livrer des produits dans des emballages corrects, à un moment où on a eu quelque chose de complètement déraisonnable sur des volumes qui ont fortement augmenté, ou des difficultés à livrer des choses. Donc là aussi, vraiment ce qui en ressort, c'est vraiment cette importance d'avoir mis en place depuis longtemps une interconnaissance dans les filières qui a permis finalement de s'adapter très vite, parce que parfois les entreprises témoignaient, on avait 3 jours pour s'adapter, il fallait tout de suite répondre. Donc voilà, d'avoir pu trouver des solutions rapidement aux difficultés rencontrées.
Comment vous voyez cette évolution, en fait, parlons d'ici quelques mois?
Je ne suis pas sûre que ça ait changé fondamentalement la manière de consommer des Français. disons que ça renforce des tendances qui étaient déjà présentes. Voilà, c'est pas un nouveau monde totalement différent, je ne crois pas. Mais par contre, des tendances de fond qui étaient déjà présentes, effectivement, sur l'intérêt de consommer local ou français, et plus largement de réfléchir à l'impact environnemental de sa consommation, hein, donc, si je veux dire des produits bio. Donc, ce sont des choses qui se renforcent, mais qui étaient largement présentes déjà, on va dire.
Déjà.
Donc voilà, je dirais que ce n'est pas non plus une révolution, mais ça confirme en tout cas de notre côté l'intérêt de ces partenariats de commerce équitable pour les producteurs qui étaient engagés avant.
Si ça se trouve, ça a accéléré les choses, en fait.
Voilà, ça a pu accélérer en partie.
C'est ça. OK. Merci bien. Let's go over to India, Mr. Dasgupta. In my introduction, I introduced you as a member of the Craft Resource Center. Can you just briefly explain to us what that Craft Resource Center does, what it is?
Yes. Good morning to everyone. Pleasure to be here. So, we are an intermediate marketing organization, which means that we work with artisans all over India. We have been working over 30 years now, and now we are members of WFT, of course. We are guaranteed by the World Fair Trade Organization. And what we try to do is provide these artisan partners with opportunities. At this point, we work with almost 5,000 artisans all over India. And most of them are in small towns or small villages. They're marginalized artisans. And one of our missions is to make sure that we provide them with opportunities so that they can earn stable income throughout their lifetime. Income security for these artisans is what we try to work towards. We deal mostly with non-food products, all of them handmade. And we work with we work with fair trade partners all over Europe, North America, and in Australia.
Can you give a concrete example of one of these, the jobs that these people do?
Yes, certainly. Like, for example, there's a village about 2 hours from Calcutta. We are based in Calcutta, which is in the eastern part of India. So there's a village 2 hours from Calcutta, which is a village of weavers. These weavers are traditional handloom weavers, and Pretty much all of them came over from, you know, Bangladesh when there was the separation between Bangladesh and India right. in 1971. So they're migrant immigrants. And what we do is we work with them. We give them design input, financing, logistic support. We give them access to the international markets, which they don't have otherwise. They also work in the domestic market, but what we do is connect them to the international market in terms of fair trade buyers. For example, Oxfam, Intermon Oxfam in Spain, they are one of the biggest buyers for the handloom products which come from these villages. So that's in a nutshell is our work.
I can imagine that it's quite a challenge to quickly adapt to new circumstances due to the COVID crisis. How did you manage that, or how did the center manage that?
So the COVID crisis is still a disaster in a country like India. You must have read in the newspapers that in March, the Indian government decided to shut down the country with like 4 hours notice. So when that happened, it was totally chaotic because mm-hmm. what we have to remember is, for example, our artisan partners, they don't have a lot of they don't have a bank balance like, say, some of us do. They don't have a lot of cash reserves or income reserves to fall back on. Mm-hmm. And what happened was everything shut down. There was no transportation. All the flights were canceled. So it was literally a curfew. So two things happened. One is that these artisans, they work mostly from home or they have these small workshops and they produce their products. They bring it to us. We do the quality checking and packing, and then we export these products. Now, they couldn't give us these products. They couldn't bring it to our quality control center. So naturally, the whole flow, the supply chain flow got completely disrupted, number one. Number two is, you know, most of these artisans, they work, they get weekly earnings from their work, they're piece rate workers. So when the work stopped, naturally, their access to domestic markets as well as to external markets was stopped. So they just couldn't earn any money. Their income opportunities were gone. Mm-hmm. So these are the two things which hit us immediately. And from our perspective also, the international market was completely shut off because there was no transport possible.
I see. And what is the role and the mission of the World Fair Trade Organization? I told the viewers that you are a member of that organization. What is their role in this particular scenario?
So World Fair Trade Organization has the way it is drafted has two primary missions. One is to ensure that these marginalized artisans or farmers or producers, they can enrich their own lives and those of the community around them through fair trade. So to ensure that fair trade is the vehicle for their improvement in their livelihood. And secondly, WFTO's role is to be an advocate for fair trade throughout the world. Because just like Fair Trade International has a certification for food, WFTO has a certification, which we call the guarantee system. You can see the symbol over my head here.
Oh, yes. Yes, we can.
So that is the certification. We don't have a product certification in WFTO. What we have is a process certification. So they certify that an organization follows the 10 fair trade principles, which are enshrined in the WFTO principles.
Okay, thank you very much. By the way, if any of the other panelists want to comment on what anybody else is saying, please do. Please do not hesitate. I would suggest to go over to our second topic. A few things I can take home, or I can remember from what we've been discussing here, is that this crisis has caused lots of challenges for anybody on any level. And on the EU level, there's working on humanitarian aspects, scaling up safety nets, and so on. I hear the word partnership, creating partnerships, but the main thing that I will remember here is that it requires a lot of flexibility, and that is one of the main parts that or main solutions, I think, to dealing with this a crisis. Is anybody wants to add anything to this first topic? Any of our panelists?
Quelqu'un qui aimerait bien ajouter
quelque chose? Rien? Très bien. Let's move on to our second topic and talk about how fair trade can contribute to an ecological and a social transition to a more ecological way of working. And I'd like to start with you again, Mr. Dasgupta. When talking about artisanal fair trade products, what is their ecological footprint, if there's any? Is it higher or is it lower than industrial products? And why is that?
So it's very interesting that you asked me this question, because just last month we concluded a study which we have been doing for a while, okay, in which we looked at two things. One is the ecological footprint of fair trade products, and I'm talking of non-food products. And secondly, we looked at the ecological footprint of the artisans themselves. So based on our study in India, we found out that that on average, our artisan partners who live mostly in small towns and villages have an ecological footprint which is 66% lower than the ecological footprint of any of us who live in urban cities. Mm-hmm. So that was amazing for us, that how small their ecological footprint is. And secondly, when we looked at ecological products, if you look at the products that we work with in Fairtrade, they're all handmade. They're all made using traditional techniques like a hand loom, or you use blocks for block printing or screen printing. All of these traditional techniques don't use electricity. They're hand. They're made by hand. And if you look at the materials that we use locally sourced sustainable materials. We use upcycled and recycled materials. We use natural dyes. We don't use chemicals for any kind of dyeing. So by definition, fair trade non-food products have an ecological footprint which is way, way lower than any commercial product that you might buy from a big manufacturer.
I see. Okay, very well. Monsieur Lambert, j'ai une question pour vous. Quel rôle est-ce que le commerce équitable peut-il jouer dans cette transition écologique au niveau belge, pour commencer peut-être?
Alors, je crois que tout d'abord, de manière générale, on ne peut pas scinder l'aspect écologique et l'aspect social. C'est-à-dire, si on veut que les producteurs, les agriculteurs soient des acteurs du changement et du changement vers plus d'écologie, il faut que ces acteurs soient dans une position où ils peuvent effectuer ce changement, ils peuvent être acteurs de changement. Et ça, c'est très compliqué s'ils sont dans un mode qui est un mode de survie. Et ça vaut tout autant pour les agriculteurs d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, que pour les agriculteurs de France, comme mm-hmm. disait ma collègue, ou de Belgique. À partir du moment où la seule chose à laquelle vous pensez, et c'est tout à fait légitime, c'est de nourrir votre famille et de survivre jusqu'à la fin du mois, c'est très compliqué de vous demander de vous occuper de l'environnement et de changer vos pratiques agricoles. Donc, en fait, tout est dans tout. Pour moi, ça, c'est l'aspect le plus important en fait des choses. Et c'est vrai que souvent, on voit par exemple dans la note européenne de la fourche à la fourchette, qui est globalement très bien, mais elle est très axée sur l'aspect écologique. Et il y a quelques mentions des aspects sociaux. Et je pense qu'on oublie un peu vite que les deux sont extrêmement liés. On dit souvent, vous savez, s'il arrive que des agriculteurs, par exemple dans les pays où on cultive le cacao, coupent la forêt primaire pour étendre leur culture, qu'on lit parfois, c'est un peu une boutade, mais c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les arbres, c'est parce que simplement ils n'ont pas le choix. Et s'ils veulent survivre avec les prix qui leur sont payés, ils sont obligés de le faire. Alors au-delà de ça, dans les normes, notamment dans les standards fair trade, et ça c'est pas toujours connu, il y a aussi un certain nombre de standards écologiques, donc notamment l'interdiction des pesticides les plus dangereux, notamment l'interdiction des OGM, notamment des plans pour le respect du sol, de l'eau, etc. Donc ça c'est aussi des aspects qui sont présents. Il y a aussi, et on voit très souvent, que le fair trade est un premier pas vers l'agriculture biologique. Et donc, même si on n'impose pas aux agriculteurs de passer directement vers le bio, les normes et les standards sont faits de telle manière qu'ils y soient incités. Et on voit qu'il y a une très grosse partie des produits fair trade, pratiquement la grosse majorité, par exemple, des bananes Fairtrade qui sont vendues en Belgique sont également, également bio. Mais je pense que le cœur du débat, c'est vraiment de se dire, on ne peut pas scinder l'aspect écologique et l'aspect social. Et ça, il faut bien le comprendre. Hein. Ventre affamé n'a pas d'oreille, hein, nous disait récemment un planteur de Côte d'Ivoire. Et à partir du moment, et ça vaut tout autant pour les agriculteurs des Ardennes belges ou de la Campine, à partir du moment où ces gens se préoccupent avant tout de survivre, ce sera très, très compliqué et pas du tout juste de leur demander de complètement changer leur technique de production.
Mais dans ce contexte, là, quel est donc le rôle des entreprises quel rôle est-ce qu'elles doivent jouer là-dedans?
Alors, on aime bien nous regarder les choses de manière systémique, c'est-à-dire, vous savez, dans le développement durable, vous avez des gens qui disent, oui, mais c'est les gouvernements qui doivent le faire, qui doivent agir, ou bien non, c'est le rôle des entreprises, ou bien ben non, c'est le consommateur qui doit changer. Nous, on pense qu'il faut créer des cercles vertueux, c'est-à-dire que, bien sûr, les entreprises doivent changer leurs pratiques d'achat, doivent s'intéresser plus à leur chaîne d'approvisionnement. On en parlera tout à l'heure avec les lois sur le devoir de vigilance. Mais le feront d'autant plus facilement que d'un autre côté, il y a une demande chez le consommateur. Il y a à la fois une pression et une demande. Hein. Le consommateur, il est à la fois un bâton et une carotte, hein, un bâton pour critiquer et une carotte pour acheter. Mais aussi, les rôles des gouvernements sont très importants. Hein. Les gouvernements peuvent réellement faciliter en fait cette transition en ayant par exemple des règles sur les achats publics, en ayant des législations comme la législation dont on va parler sur les devoirs de vigilance, en créant des plateformes hein, comme la plateforme Beyond Chocolate par exemple en Belgique et bientôt Beyond Bananas etc. qui mettent tout le monde autour de la table. C'est important aussi hein, ces problèmes sont tellement fondamentaux que personne ne peut prétendre les régler tout seul. Fairtrade, on est la plus grosse organisation, je pense, de commerce équitable. On ne va pas tout seul régler les problèmes. C'est pas possible. Je veux dire, et personne ne peut le dire. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre les gens ensemble et de travailler ensemble, gouvernement, entreprise, organisation de certification, ONG, pour vraiment amener le changement.
Je passe à Madame Maison Haute. En fait, en France, que faites-vous à ce niveau-là? Vous m'avez parlé d'un projet équité. On doit le voir dans ce sens-là aussi?
Oui, bah alors je rejoins tout à fait hein, ce que disait Nicolas Lambert. C'est qu'effectivement, on a besoin d'une autre économie aussi pour accélérer la transition écologique. Et voilà, on utilise souvent les slogans qui disent des prix justes pour la transition écologique. C'est extrêmement important et effectivement c'est parfois peu présent à la fois dans les politiques publiques mais même dans la vision des ONG environnementales. Et nous on travaille aussi beaucoup hein, à créer des ponts avec ce monde de l'environnement qui souvent ont un peu difficulté à rentrer dans la dimension économique, dans le rôle des entreprises, le rôle des acteurs privés. C'est pas toujours évident et donc voilà, il y a aussi des choses à construire sur ce sujet-là qui nous paraît vraiment important. Le deuxième point, et je viens ensuite sur l'exemple d'équité, effectivement, du programme d'équité, c'est que sur l'aspect écologique, on s'est rendu compte, et c'est des choses qui s'appuient aussi sur des études, qu'en fait, les modes de production, et notamment si on parle des produits alimentaires et de l'agriculture, les modes de production agricoles, en fait, ont un poids très important sur les questions de biodiversité et sur les questions de changement climatique. Bien sûr, le transport n'est pas neutre, mais en fait, on peut déjà agir énormément en travaillant sur les modes de production. Et donc, c'est des sujets que nous, on essaye de travailler. Donc, on en parlera tout à l'heure à la fois en France, mais aussi bien sûr au Sud. Et donc, nous, on est engagé sur un programme qui s'appelle Équité, qui est un programme d'accompagnement sur l'Afrique de l'Ouest, notamment qui a des financements de l'aide publique française, hein, qu'on a pu réussir à voilà, un programme d'une ampleur assez importante de 10 millions d'euros, et qui notamment appuie des programmes portés par des coopératives agricoles en Afrique de l'Ouest directement. Donc, ce sont les coopératives qui proposent des choses, voilà, proposent des projets, parfois avec des accompagnements. Et ces programmes sont tournés autour de la transition agroécologique. Donc, on a à la fois, du coup, ces coopératives qui sont engagées dans des partenariats de commerce équitable. À la fois, elles ont les prix, un marché en commerce équitable qui leur permet de développer des moyens. Et ce programme vient encore renforcer en leur amenant de l'appui financier et technique pour des projets. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, on parlait du chocolat tout à l'heure, donc en Côte d'Ivoire, le principal pays producteur de cacao. On a une coopérative qui s'appelle la Camaillé, qui est engagée avec Fairtrade International, et qui, par ce programme Équité, permet de développer un programme sur l'agroforesterie dans les plantations de cacao, ce qui permet à la fois de mieux adapter cette production au changement climatique, qui a aussi des impacts en Afrique, évidemment. Ça permet de rester plus longtemps sur des plantations et donc de ne pas les défricher une forêt nouvelle. Et donc, on est aussi dans cette logique de lutte contre la déforestation importée. Et en même temps, on va aussi développer des productions qui sont vivrières. Donc, on va aussi travailler sur le revenu, y compris à assez court terme, en fait, des familles en complément du cacao, plus de vente extérieure.
C'est ça.
Voilà, on a d'autres exemples sur d'autres filières, par exemple la noix de cajou, il y a plein d'exemples. Mais donc, c'est juste pour dire que, en tout cas, nous, ça nous paraît important. Effectivement, on a le prix du commerce équitable qui est la première attrait. Et quand on peut en plus accompagner, en amenant un petit plus pour lancer des projets, il y a des très belles choses qui peuvent se faire et on peut trouver des voies, effectivement, pour lutter contre les questions de déforestation, par exemple.
OK. Merci, Madame Mezout. En fait, we've had a couple of examples now. We've gone all the way to India, Belgium and France now. A question for you, Mr. Althoff. On an EU level, can we support vulnerable populations from countries outside of Europe in producing more products to import in the EU while guaranteeing the ecological transition? There might be a risk that they will become dependent on the European demand for their product, while we need to move towards more and more local production. If you could just switch on your microphone, please, that might help. Yes, there you go.
You hear me again?
Yes. Good. Loud and clear. Go on.
Thank you. Yes, I did have some problems with listening, so I'm glad that you hear me again.
Okay. Yeah.
Yes, the question about changing, supporting populations outside the EU, then being dependent on the EU market. Well, the first thing I wanted to say, the EU market is not the worst one to be dependent on. It's a relatively stable, predictable market. And so in that sense, it's not too bad. But I sense the question in the sense of, yes, what is also needed is local production and development of local markets. And I fully acknowledge that. And particularly when we look at Africa, how big the import bill is in many African countries for basic food supplies, there is so much to be gained still in terms of market, in terms of feeding urban, particularly rapidly growing urban populations. There's so much to be gained in terms of trade between countries in Africa, which is virtually nil, that in general this is a question. The other day there was a presentation from a Zimbabwean entrepreneur who exports to the EU horticultural products, completely happy with her export situation, but obviously there are questions. Is that the right model for her? It certainly is. It's excellent entrepreneur. We've had many other cases throughout Africa and throughout the world of excellent exporters to the EU who can find a niche, fair trade or not fair trade, because both of them exist. But the question remains whether this is a model to be supported generally or not. Just about 3 weeks ago, we had a report from the OECD comparing basically what is the employment and income generation model of let's say supporting local supply change and supply and supporting more the global support chains, and the local regional supply chains were in many cases superior in creating employment, creating income above the global one. So it is a very general question. Now, what I also sensed from the debate until now is the interesting point of when you support fair trade and you support ecologically sustainable practices. What effect does it have on mainstream and on different types of farming? We've seen that it does have an effect, and we are quite supportive and very, very increasingly so on sustainable practices, whatever those sustainable practices can be, because they're not just one type of practices, but increasingly we are supporting agroecological approaches from the Commission side. And also including organic approaches, not only in Europe but throughout the world. So we do see that this is also an opportunity for more vulnerable populations, as you called it in your question.
I know you're not happy with that
term. Like the term, because it was mostly quite capable of taking their life in their own hands if given the chance.
Mm-hmm. But what are the main challenges for these for local producers using sustainable agriculture practices to access the markets in their countries when they're on EU-funded programs? What are the main challenges for them?
That depends really from country to country, I would say.
Okay. Can you give a number of examples, maybe?
They have been mentioned of infrastructure. There are challenges of market organization, where markets are simply not difficult to access because of the way they are structured, because of certain small groups that control markets. But they can also be related to government policies. And I recall a situation in Laos, where you have these very interesting, but throughout Southeast Asia, you have these very interesting integrated rice, fish, and vegetable type of farming, whereby you have basically quite ecological approach whereby there's symbiosis between the growing of plants, the role of the fish. You have ponds whereby the ducks and the frogs and the snails are there. And when you don't grow the rice, you can still grow the vegetables. So there are intricate systems. Now, if a government decides that, look, those systems don't produce enough in terms of rice, and want to produce a different model and support a different model, which is much more, let's say, the green revolution type of model.
I see.
You lose this. So it is also a matter of convincing governments, and that's what we did in Laos with others like FAO, to try to work with government and say, hey, these are very valuable farming systems to be maintained. And then you can also try to gain issues.
Do you find these governments to be open to your suggestions, to be open to that sort of change or that sort of approach? Or is there a challenge, or do you have to struggle against some stubbornness?
Look, you always have to struggle, but with good arguments, and I think with organizations like the FAO, and with an EU voice, that at least one is being taken seriously in both countries. Yes,
I see. Okay, thank you very much, Mr. Dasgupta. I'm coming back to you. As far as the ecological innovations are concerned, we've been discussing that for a couple of minutes now. In the fair trade sector, who bears the costs for them in your context in India? Who bears the cost for the ecological innovation, and how does your center innovate with more ecological practices?
That's a very good question. And the answer is, in the fair trade ecosystem that we work in, there's many actors. There's the producer, there's the intermediate marketing organization in the south, like, for example, us. Then we have our fair trade partners in the north, like in Europe, we have our fair trade partners. And then there's the final consumer. Uh-huh. And what we find is that when there's any kind of ecological improvement made, any kind of environmental improvement made, I think all the actors bear some portion of the costs together.
All right.
It's not that the cost falls on only one person. For example, When we make some, let's say we introduce some kind of natural dyeing process in some kind of fabric production, right? That's more expensive. We all know that that might be more expensive. And as a result, the price of the product goes up. Now, what happens if the price of the product goes up? Some of that price increase is passed on to the consumer who pays that price. And then some of the cost is absorbed by the intermediate organizations like us or those in Europe. So there's an equal cost sharing. Now, is that a fair cost sharing? The answer to that, you know, we can debate a lot about that, whether that's a fair system or not. What we do have to keep in mind that as we make more and more changes to make products with even lower carbon footprint, the costs are definitely going to keep going up. For example, in India, raw material prices have shot up over the last 10, 20 years.
Okay.
So the same product, which we made 10 years ago, costs maybe 10, 20, maybe 30% more even. And for the producer, for the small producers or the farmers or artisans to bear that cost is almost impossible. In fact, I heard some of the other panelists say that they are, like in Africa, that they are more interested in feeding their families and providing basic necessities to the family. So they cannot bear the cost.
So how do they cope with that then? Is there public funding?
There is really not much public funding. There's some government support, but it's very minimal. There's government subsidized rations and so on, but it's very minimal. What we need to do in the long term, you know, eventually when it comes to a situation that the price increases too much, we get into a discussion with our partners and we figure out a solution. But eventually in the long run, the solution is we have to educate the consumers. And this is one good thing in fair trade. We do have a very good consumer base. And we have seen time and time again, if we offer a product which is very environmental friendly and has a low ecological footprint, the consumer is willing to pay a higher price for that.
All right.
So the consumer is willing to bear that cost. So that's a wonderful thing. And to your question on how we do innovation, you know, as I mentioned, in the fair trade sector, our non-food products are already very ecological friendly, environment friendly. But we keep innovating in terms of what kind of materials we're using, whether we can use more and more locally sourced material, whether we can use sustainable material like using cork material or bamboo, which are naturally growing materials which can be used for products. So the innovation keeps happening in product innovation. And some of it is also process innovation. Can we save more water? Can we do our dyeing in a less water intensive ways? Or can we use some intermediate technology where we don't need power or any kind of electricity? So the innovations have been very small. There's no big innovation which happens, but we keep tinkering with the product form and the idea.
And it's an ongoing process, obviously. That's
absolutely. It's a continuous improvement process.
Okay. Thank you very much. I think we have enough material now to conclude this this second topic. What I'm remembering, I'm summarizing a little, is that we cannot shift ecological from social. These are two aspects that go together, and it's important to make it a joint venture between not just the firms, the enterprises, but also the government and the consumers. And I'm very happy to hear Mr. Dasgupta say that the education of the consumer is going quite well. Not only innovate in the field of process, but also in the field of production, and help them in the development of local markets. Thank you very much. Is there anybody who wants to add anything to what's been said in this second topic? Madame Maison-Haute, allez-y.
Merci. Oui, je voulais juste réagir sur les propos de Monsieur Holtoff aussi sur les enjeux que rencontrent les producteurs, les organisations de producteurs dans les pays du Sud. Je pense que l'Union européenne a aussi une responsabilité à assumer quelque part de ses politiques. Je prends l'exemple de la filière lait. Aujourd'hui, notre politique, la politique agricole commune ne permet pas, on va dire, à la fois aux producteurs français, européens, de vivre correctement leur métier. On sait qu'on a eu très régulièrement ces dernières années des crises importantes sur les prix du lait, avec des fermes qui arrêtent leur activité régulièrement pour des problèmes économiques. Et en même temps, on sait qu'en parallèle, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, les producteurs, les éleveurs locaux ont grande difficulté à développer leur marché local, à accéder à leur marché local, tout simplement, parce qu'effectivement, nos entreprises européennes vendent sur ces marchés-là des poudres de lait, parfois réengraissées à l'huile de palme, d'ailleurs, à des prix, en fait, qui sont trop peu chers pour que les produits locaux puissent être compétitifs, en fait. Et c'est notamment nos systèmes de subventions qui ont une pertinence, je ne dis pas, hein, pour l'agriculture européenne, mais qui sont faites d'une telle manière qu'à la fois, elles ratent les deux objectifs. Elles ne permettent pas aux producteurs européens de vivre et elles font un espèce de dumping sur certains pays ouest-africains. Et donc, il y a aussi un travail à réfléchir, en fait, pour que peut-être les entreprises, parce que les entreprises européennes du lait sont présentes dans les pays africains, c'est pour elles des zones d'intervention, qu'elles s'engagent plus fortement à travailler avec les filières locales, à s'approvisionner localement, puisqu'on peut produire du lait en Afrique de l'Ouest, si on s'en donne les moyens d'y réfléchir. Donc, il y a aussi une question de globalité des politiques qui me semble importante à réfléchir. Et c'est des sujets, dans le commerce équitable, où on essaye de tenir un peu tous ces bouts, en fait, qui sont extrêmement reliés.
C'est ça. OK. Mr. Althoff, anything to add?
Yes, can I react to that?
Yes,
because of course the situation of milk West Africa is a little bit more complex than this, and let's make clear, Europe does not dump products on the world market. There's no element in terms of direct support in order to place products under the price on the world market. That doesn't exist anymore. That's long gone. The situation in West Africa is a situation where you have a very rapidly growing urban market in terms of milk consumption. And indeed, the local production is not able at this stage to fill that. Part of the issue is related to having cold chains in place, having producer organizations that can capture that market, having supportive government policies, and we're trying to support that. Part of it might also be due to the fact that that there is very little protection of the market, and there is a policy space for governments to protect a market, which exists also in the relations with the EU in the EPAS. The policy space is available, and if governments want to take that, they can take it. Sometimes the option is not taken. You see indeed some exports from European companies to West Africa. It exists on milk, also on fat-filled powder, which is not milk, which is a completely different product. But they're also from other parts of the world. And this is not something that Europe alone can take. It is government's responsibility in West Africa. We're happy to talk with them. We're happy to talk with farmer organizations, the milk sector, as we have been doing in the last couple of years, in order to see how we can work with them. But it is not just Europe's problem. That is just what I wanted to say here. Thank you.
Okay. Thank you very much. We're going to have to move on because the time is moving on quickly. Obviously, we have to stick to our time schedule. So let's move on to our third and final topic. Le commerce équitable est un mouvement constamment en recherche de cohérence, dynamique multiple. L'une d'elles est majeure, longtemps cantonnée à des échanges commerciaux solidaires sud-nord. Le commerce équitable s'est ouvert aux échanges locaux. Et dans les pays du sud, tout d'abord, comme au Mexique, en Inde, en Afrique du Sud, au Kenya ou en Équateur, le Brésil allant jusqu'à promulguer une loi dans ce sens. Dans les pays européens ensuite, pour obtenir un modèle agricole durable favorisant le tissu social. Plusieurs initiatives se sont développées en Belgique, le label Prix Juste Producteur, le lait Fair et Belle, ou le label Biogarantie Belgium qui intègre certains critères de commerce équitable. Des acteurs plus historiques de commerce équitable comme Miel Maya, Oxfam, Éthicable ont eux aussi intégré certains acteurs, certains produits locaux. Madame Mézeau-Haute, je viens de citer quelques exemples belges. En France, le commerce équitable local Origine France s'est fortement développé ces dernières années. Quelles sont les principales caractéristiques du secteur du commerce équitable local?
Oui, alors effectivement, c'est un peu une caractéristique de la France. Je pense qu'on est un peu le pays sur lequel, pour lequel cette dimension du commerce équitable local, alors nous, on a trouvé notre vocable, on dit Origine France, mais bon, peu importe le terme,
D'accord.
s'est développé le plus vite et le plus quantitativement. Hein. Aujourd'hui, c'est un tiers des ventes de produits de commerce équitable en France sont des produits venant de France, les deux tiers étant des produits venant du Sud. Donc, c'est quelque chose qui est important. Pour vous donner quelques ordres d'idées, hein, sur 2019, on va dépasser les 500 millions d'euros de ventes aux consommateurs sur des produits de commerce équitable français. On a des taux de croissance là, sur l'année autour de 20%. Voilà, plus de 10 000 producteurs français impliqués, plus de 80 organisations de producteurs. On est sur de l'alimentaire uniquement hein, pour l'instant, une quarantaine d'entreprises et d'industriels. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est que cette dynamique, elle est à la fois venue du commerce équitable lui-même, hein, comme vous le citiez, donc des acteurs du commerce équitable qui étaient au départ impliqués sur des filières internationales et qui se sont dit que finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils observaient des difficultés des producteurs français qui, bien sûr, ne sont pas comparables en termes de niveau de pauvreté, mais quand même des grandes, grandes difficultés économiques et sociales. Et qu'il y avait sans doute, en tout cas, un intérêt à y réfléchir également. Donc voilà, vous citiez Etikab en Belgique, mais en France aussi, Etikab fait partie des entreprises qui très tôt a noué des partenariats aussi avec des agriculteurs, notamment dans le sud-ouest, hein, où ils ont leurs installations, mais également le réseau de distribution Biocoop, qui est très engagé. Voilà, chez Biocoop, tout le café est équitable, par exemple, est bio-équitable. Ils
D'accord.
ont noué il y a déjà longtemps aussi des partenariats avec des producteurs français. Donc, il y a à la fois le commerce équitable, aussi des labels comme Biopartenaire, Fair for Life, voilà, ce sont des labels qu'on voit pas mal en France, se sont posés cette question-là. Mais il y avait un deuxième mouvement parallèle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les mouvements, en fait, paysans, des mouvements agricoles français qui se sont posés cette question de comment on pourrait faire pour travailler sur des prix plus stables, des partenariats plus engagés sur la durée dans les filières. Et ils ont, on va dire, réinventer le concept du commerce équitable en partant de la question de la France. Donc ça, c'est aussi très intéressant, donc à la fois dans le monde du bio, j'allais dire, mais aussi dans le monde du conventionnel. Par exemple, une démarche comme Agriéthique est partie d'une coopérative, d'un groupe coopératif, d'une coopérative agricole qui voulait réfléchir à stabiliser les prix justement sur le blé en travaillant avec les moulins, les boulangeries pour que tout le monde se connaisse et se mette d'accord pour qu'on arrête d'avoir des prix qui font le yo-yo, comme on voit sur le blé, comme on peut le voir sur le café aussi. Enfin, il y a vraiment des analogies. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui.
Oui.
Alors, de quoi je vous parle? Du cadre légal, plutôt?
Allez-y si vous voulez.
J'essaye de voir le global de tout ça.
Tout à fait.
Non, peut-être ce qui est important, c'est de dire que en France, ce n'est pas vraiment deux mondes séparés. On n'a pas le commerce équitable Nord-Sud d'un côté et le commerce équitable Origine France de l'autre.
D'accord.
D'abord, tous ces acteurs se retrouvent au sein de notre plateforme hein, du commerce équitable. On a des entreprises qui travaillent sur ces producteurs de deux types. Et puis donc, en France, on a effectivement depuis 2014 une loi hein, qui a donné une définition légale du commerce équitable. Et ce qui était nouveau dans cette définition, c'est que la définition est universelle, c'est-à-dire qu'on ne précise pas dans la loi où sont les producteurs ou les travailleurs en situation de désavantage économique. Donc, ils peuvent être dans les pays du Sud, ils peuvent être en France, ils peuvent être en Belgique, ils peuvent être en Italie, ils peuvent être voilà, dans différents endroits. Donc, c'est un concept qui est tout à fait universel. La loi reprend les fondamentaux du commerce équitable, hein, les éléments qu'évoquait tout à l'heure Nicolas Lambert, l'engagement sur le prix, l'engagement sur la durée, la prime de commerce équitable. Alors, on appelle parfois un peu différemment sur les filières françaises, on pense un peu au prime pack quand on parle de prime, donc on appelle ça un fonds de développement, mais c'est bien cette même logique et des critères socio-environnementaux. Donc, les fondements sont vraiment les mêmes. On n'a pas inventé un commerce équitable différent parce qu'il est adapté à des filières
C'est ça.
agricoles françaises ou européennes. C'est la même chose, c'est vraiment le même concept.
D'accord.
Donc, ça c'est quand même extrêmement important de voir que c'est un seul. Voilà. Un seul mouvement, en fait, simplement, il y a des nouvelles collaborations, effectivement, des organisations de producteurs français, des mouvements paysans français. On n'était pas habitué à travailler avec ces interlocuteurs, et donc
C'est
c'est
ça.
des nouvelles collaborations qui se
Oui.
mettent en place, mais on est vraiment sur les mêmes fondamentaux.
Et au niveau belge, Monsieur Lambert, est-ce que quelle est la situation en Belgique en fait par rapport à cela?
Donc on voit aussi un développement effectivement de ce qu'on appelle le Nord-Nord hein, dans le jargon des gens du commerce équitable en Belgique. Hein, vous avez cité les initiatives. Il y a vraiment le très beau succès de Fairbel pour tout ce qui est produits laitiers. Et puis ils viennent aussi maintenant de lancer de la viande et des fruits. Donc on voit qu'ils s'étendent à plusieurs catégories. C'est très intéressant. Il y a le label Prix Juste, etc. Bon, donc tout ça a été dit. Et je pense qu'effectivement, même si le mouvement du commerce équitable, il est né dans le sillage des mouvements nord-sud, etc., dans les années, 70, 80, on voit que, j'ai presque envie de dire, malheureusement, maintenant, la logique s'applique aussi à l'agriculture européenne. Donc, d'un point de vue philosophique, on est exactement dans la même problématique. Et il n'y a pas du tout de raison, même si nous, en tant qu'organisation, on est juste ici uniquement dans la dynamique nord-sud, on est les premiers à dire et à reconnaître que philosophiquement, les mêmes principes non seulement peuvent, mais devraient s'appliquer à l'agriculture européenne.
Ok. I need to take hold of the time, keep the time, because we're running out of time a little. So, Mr. Skupta, I have a question for you. What do you think of this trend to relocate fair trade in the north and south? Isn't there a danger of Western countries turning inward, which is detrimental to international solidarity? Well, what is your view on that?
At the WFTO General Assembly, we debated this point a couple of years ago, I think a little more than 2 years ago, and we all agreed that ours is a solidarity movement. You know, I was very happy to hear from Julie that in France there's a law which doesn't distinguish, and that's what we all agreed, that we cannot make a difference between north-north and north-south trade. You know, we stand for small partners, small producers and artisans, wherever they might be. So we, in fact, passed a resolution acknowledging north-north trade, and we are saying that that's fine. We are not worried about it. Now, that being said, you know, at the individual level, some organizations in the south might be scared that, you know, what's going to happen to us if the North closes the borders and so on. But my personal opinion is that I'm not too concerned. In fact, I see this as a complementary effect rather than a competitive effect.
Okay.
Because if you look at Europe, for example, most of our products are sold in these world shops, right? World shops in Germany, Austria, Italy, Belgium. And when a customer walks in through that world shop door, I don't care what the customer is coming to look for, whether the customer has come for milk from France or whether the customer is coming from a beautiful shawl from India. As long as the customer comes in, it is an opportunity for us to sell all types of products. So if a customer came only looking for some kind of food product from Europe, who knows, the customer might walk out with a lot of other products also. So it all depends on marketing. How do we market ourselves and how do we position the products, right? If we make a mistake in that, if we position the products that, oh, you are only buying not fair trade products, and you know, you don't look at this north, south, the southern products, you know, kind of in a store, you put the south products right at the back of the store, that's not a good idea, right? But if you make an effort to market it all together as, hey, these are all fair trade products. It doesn't matter where they come from. This is a solidarity movement. We are helping small artisans and producers, and it's a good product. I think we can all win.
You're a very optimistic person, I can tell. Your optimistic views, very well. Mr. Althoff, a final question to you, and then we'll have to round up this topic. Could you tell us more about the farm-to-fork strategy that was mentioned before? It's part of the European Green Deal, if I'm not mistaken. Can you tell us a bit more about that?
Thank you. Yes, of course, the European Green Deal has been launched last year by the European Commission, and basically that this is the green growth strategy for Europe, but also with implications for the world. And the farm to fork strategy is a bit at the heart of it, and it was launched by the European Commission a few months ago. Also, that is basically about where does food go in Europe? What is the future of food? And one looks at it from a very holistic point of view. And I just see in the chat the reference to a holistic approach and combining social and ecological dimensions. Well, the farm to fork also combines the social, the economic, and the ecological dimension. So it's the three sides. It's not meant just as let's say as a greening of the world, but it's greening, fairing, etc. of the world. It's more inclusive, more of all the good things in that sense. Now, for Europe, it has quite a number of implications. And at this moment, the farm to fork, it's a strategy of the Commission. It lies before the member states. They're reacting to it. There will be discussions in the Parliament. So this is all happening at the moment. Lots of social discussions with farmers, with consumers, with etc. Now internationally, what does that mean? In a certain way, the philosophy of the farm to fork will also try to use that in our international cooperation. So a real good balance between those three elements of sustainability, and that particularly in development cooperation also means a fair price for producers. Maybe it's good also to recall, and that is not completely related with the farm to fork, but it fits in the philosophy.
Okay.
The launch last week of the Cocoa Initiative, the European Sustainable Cocoa Initiative with Cote d'Ivoire and Ghana, which builds on the proposal of those two countries to increase the price for their consumers by 40%. But we see this as the opportunity to pick on to it and to make it a kind of package deal whereby, yes, we support this increase of producer price, but at the same time we try to create a package of halting further deforestation around cocoa, actually activating also some afforestation, and combating child labor. So as a kind of package deal addressing the three sides. Now, the other point that might be relevant in terms of the farm to fork is that when Europe will say, yes, we will no longer tolerate certain practices of combined child labor, deforestation, etc., in the products that come to the European market, that really means that you have to look at standards, to work on standards globally. Okay. And to assess those standards. It might also mean, therefore, that certain standards are changing, and that farmers and farmer organizations, the producers, might need to be assisted in working towards those
standards. And just briefly, but very in a couple of words, how can you see this evolve? Where, for instance, a year from now?
A year from this is for more than a year.
Okay, let's say 5 to 10 years, because something it's like that in the long term. Then
it's in the longer term,
right?
Definitely. But I think, first of all, this cocoa initiative is a very interesting one because it's emblematic. Okay. And I think if we go a year from now, if we are further and more firm on increasing prices, on making sure that everyone in the value chain plays their role, mm-hmm. and European Commission has said we're very happy to bring together the European companies, which is happening. Yeah. Europe is the main market. They're the two countries that I mentioned are the main producers. So you have a big share. We bring the civil society organizations, with international organizations, ILO, FAO, others, around the table, and we make we serve as an honest broker, but it's for the market and for the various partners to react to it, including consumers in this case.
Yeah, of course, I can see. Right. Thank you very much for sharing your views on this. I'm going to have to round this topic up because there's a number of questions that have come in from the audience. We're going to take about 20 or 25 minutes to have a look at those questions. We may not have the time to reply to all of them, but our team has picked the most relevant ones and they may have summarized a number of the most recurring ones. So let me just have a look at the first question. Question is for you, Mr. Althoff. I'm discovering it as we go along. What are the existing initiatives supporting funding EU-Africa partnerships of entrepreneurs who are carrying economically viable projects aiming at reducing food insecurity but currently struggling to find seed money?
Okay. quite a question, actually. And
yeah. If you could answer as brief as possible, that would be good.
Right. The first point I wanted to say is that if there are good proposals that are basically economically viable, they should normally find their support without coming to the European Commission, let's say that way. Mm-hmm. You don't need to come. There is a market. There are banks and there can be funds. Now, we do support certain funds, agricultural support funds, and particularly one for smaller investments that I want to mention is the so-called ABC fund with IFAD, in which smaller investments that are viable can be brought to as proposals to that particular fund and can get semi-commercial funding. But we have a couple more at the global level, at the continental level, and at national levels, because let me repeat that what the European Commission in its international cooperation does is mostly actually at the country level.
I see. Okay, thank you very much. Let's move on to another question. This question is for Monsieur Lambert and Madame Maison Haute. Even when locally the footprint of fair trade is much lower, what about the transport carbon footprint to deliver these goods in Western countries? Je ne sais pas qui va répondre, Madame Maison Haute ou Monsieur Lambert. Tant que vous activiez votre microphone, moi, je suis content. Voilà.
Je veux bien le prendre, Julie. Je ne sais pas si tu veux après complémenter. Mais you want me to answer in English or
Non, vous faites
okay.
La question est en anglais. Pour les interprètes, en fait, oui.
Oui, d'accord.
Je l'ai reçu ici en anglais, c'est pour ça, en fait.
Ok, non, pas de souci. Voilà. Ben, je crois que contrairement à ce qui est souvent, à ce qu'on croit souvent, en fait, et ça a été dit par d'autres intervenants, hein, finalement, la partie transport dans l'empreinte carbone des aliments en particulier, elle est relativement limitée. Et donc, il faut voir l'empreinte carbone dans sa totalité. Et par exemple, pour certains produits qui doivent, par exemple, être produits ici dans des serres, qui doivent être éclairés et chauffés, ben, parfois, ils ont une empreinte carbone qui est moindre si on les fait venir de plus loin. Et donc, et là, c'est un message plus général. Je pense qu'il est juste hein, d'avoir globalement une tendance vers la relocalisation pour des tas de raisons. Mais il ne faut pas que ça devienne un dogme. Et c'est un petit peu ma crainte, c'est que parfois, ça devient une espèce de dogme absolu où mm-hmm. on dit, et du coup, tout doit être local et tout ce qui vient d'un peu loin est totalement… Mais sans qu'il y ait sans que ce soit rationnel. Or, pour un certain nombre de produits… D'abord, ils ne peuvent pas être produits chez nous. Et ensuite, en fait, quand on regarde l'empreinte carbone qui est liée au transport, elle est très faible. L'empreinte carbone, elle est surtout liée au mode de production. Et justement, si ces produits sont produits de manière équitable, avec en plus des normes équitables et bio, c'est encore mieux. Finalement, on va beaucoup plus travailler sur l'empreinte carbone à travers ça qu'à travers une relocalisation. Donc, globalement, la relocalisation est une bonne direction générale. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi on le fait. Et deux, et ça, c'est vraiment important, s'il vous plaît, n'en faisons pas un espèce de dogme absolu, parce que là, on va se tirer une balle dans le pied. Quoi.
D'accord. Madame Maison-Haute, vous avez
je rejoins assez. Hein. Effectivement, la relocalisation est une bonne chose, mais n'en faisons pas un dogme absolu. Et si on relocalisons avec des modes de production écologiques, hein, ce serait quand même dommage de relocaliser des choses sur des modes de production polluants. Ce serait vraiment, je pense, pas une bonne idée. Et juste, je voulais peut-être rassurer sur cette histoire de concurrence, du coup, nord-sud et nord-nord, hein, ce qui rejoint un peu ça. Est-ce qu'on va relocaliser, en gros, toutes les productions, y compris celles du commerce équitable? Est-ce que ce n'est pas un risque pour le nord-sud? Indro était plutôt optimiste, tant mieux. Mais moi, je voudrais vous dire des choses qu'on a observées en France, parce qu'on commence à avoir quelques années de retour, hein, le commerce équitable Origine France. On peut le comptabiliser officiellement depuis 2014, donc ça fait déjà 6 ans, on commence à avoir quelques visions. En fait, nous, ce qu'on observe, alors déjà, on a peu de produits qui sont concurrents sur l'alimentaire. Alors, c'est aussi lié à notre spécificité de marché français. Voilà, en France, on n'a jamais vendu de vin chilien du commerce équitable, par exemple, parce que voilà, les Français là-dessus sont totalement hermétiques. Voilà. C'est un peu pour la boutade. Mais c'est vrai qu'on a peu de produits qui sont potentiellement concernés au niveau alimentaire, vraiment concurrents. Effectivement, le café, le cacao, le sucre, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de production française, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et en fait, nous, ce qu'on observe globalement, hein, je vous disais qu'on avait une forte croissance sur le commerce équitable Origine France, mais en fait, depuis 5-6 ans, on voit aussi que sur les filières nord-sud, la croissance a repris, alors qu'on a eu une période où la croissance a été un peu atone. Alors, est-ce que c'est un mouvement général? Mais nous, on a plutôt tendance à comprendre que le fait de parler du commerce équitable local, ça a aussi relancé une dynamique, en fait, une dynamique d'intérêt du côté des entreprises, du côté des médias, peut-être du côté des consommateurs aussi. Et par exemple aussi, aujourd'hui, on a des entreprises qui vont au commerce équitable via leurs ingrédients français. Je pense à, par exemple, sur du lait, voilà, une marque de yaourt qui a commencé à travailler avec ses producteurs de lait, c'est en Normandie, là, dans l'ouest de la France. Mm-hmm. Mais en fait, dans leurs recettes, ils ont du cacao. Ils ont du sucre de canne, ils sont en bio, c'est du sucre de canne, ils ont de la vanille. Et donc, ils sont en train de travailler au fur et à mesure sur tous les autres ingrédients internationaux. Et donc, voilà, c'est aussi une nouvelle entrée pour aller toucher des nouvelles entreprises qu'on aurait moins facilement, entre guillemets, accrochées sur des ingrédients internationaux. Donc, je voulais quand même… nous, on n'observe pas, en tout cas, un espèce de cannibalisme des filières locales de commerce équitable sur les filières internationales. Au contraire, ça a plutôt redynamisé… C'est pas dynamique, mais ça a redonné encore un peps supplémentaire au secteur. Donc soyons plutôt optimistes là-dessus.
Ok, très bien. Je constate qu'il y a pas mal de questions pour vous deux, Madame Maison-Haut et Nicolas Lambert. Mais en fait, rien que pour changer, I'm going to go to a question which was asked to Mr. Dasgupta. Is it still relevant to highlight that the 10 WFTO principles are still relevant given they were part of the founding principles of the fine criteria?
Yes.
I don't know if that's clear.
Yeah.
Is question clear?
That's clear. Yeah, okay. I think absolutely. You know, the 10 WFTO principles that we work with, that forms the core of our, the way we operate, the ecosystem mm-hmm. that we live in. So, you know, what this question refers to is that these 10 principles evolved from a set of criteria which was there in the 80s and the early 90s. And then these criteria changed to what we have now. But the essence of the criterion still stays the same, that we work with small producers and artisans. And what we work towards is them getting a reasonable income to maintain their livelihoods, improve their livelihoods. So, yes, the answer is absolutely.
OK, thank you very much. Une question suivante pour Monsieur Lambert. Serait-il intéressant d'avoir en Belgique, comme c'est le cas en France, une loi définissant et dressant un cadre pour le commerce équitable?
Ah, alors, pour ceux qui sont dans le secteur, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Hein. Je dirais, sur le principe, pourquoi pas? Sur le principe, pourquoi pas? Parce que ça permettrait de clarifier les choses. Là où on est parfois un peu plus nerveux, c'est qu'on a constaté, alors ça n'a pas été le cas en France, hein, mais on a constaté dans des débats antérieurs sur une loi sur le commerce équitable, qu'il y avait tout à coup un processus de lobby qui se mettait en place pour plutôt tirer vers les critères à la baisse. Et ça nous rend un peu nerveux. Donc en soi, sur le principe, ben bien sûr, ce serait plus clair pour tout le monde, mais à une condition express, c'est que ce ne soit pas d'une part une excuse pour tirer les critères vers le bas, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça, et deux, je pense aussi qu'il faut faire attention que ça, de pas se mettre dans un cadre trop rigide. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi au niveau de tout ce qui est approche équitable, durable, etc., c'est la capacité à pouvoir aussi innover, à trouver des nouvelles solutions. Et donc, voilà, si on devait en faire une loi, il faudrait que cette loi permette suffisamment d'innovation, de nouvelles approches, parce que on est toujours en train d'apprendre, hein, et on a besoin d'expérimenter des nouvelles choses pour essayer d'avoir un maximum d'impact. Donc, je dirais oui sur les principes, attention sur la mise en œuvre.
OK, thank you very much. J'ai encore une question pour vous. Qui cette fois-ci est en anglais. Very interesting and encouraging to hear that your plea for a holistic approach combining a social and ecological dimension. The best visualization of this is the donut from Kate Raworth. Probably a reference that you are familiar with. I'm sorry. This is a strong concept. However, in practice, I observe a need of actors, be it private sector or governments, to look for sharp, clear, simple messages and an approach that focuses on only one aspect. This is an understandable desire from a marketing and a communications point of view. How can we respond to this need for distinguishing for a clear single message USP without letting go of the holistic approach? Or do you think that the holistic message is a USP in itself? I don't know if the question is clear for you.
Je l'avais lu dans le chat.
Très bien.
Ça m'a pas fait de l'internet. C'est une très très bonne question. Et c'est extrêmement complexe. Et là, ça met en avant, hein, finalement la complexité du débat. Le débat sur la durabilité, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, hein, parce qu'on voit ici l'aspect social et l'aspect environnemental, mais dans l'aspect environnemental, vous avez encore tout là, vous avez le climat, la biodiversité, vous avez, c'est d'une extrême complexité. Et en face, on a un consommateur ou un public, hein, des citoyens qui à la fois ont besoin d'être informés, mais en même temps qui ne deviendront pas des experts en durabilité. Et donc ça, c'est vrai que c'est un champ d'étude qui est très intéressant, parce qu'il doit à la fois, on doit simplifier les messages, parce que sinon ils ne sont pas audibles et ils ne sont pas compréhensibles. Mmh. Et en même temps, on doit trouver cet équilibre entre la juste complexité et la juste simplicité. Et c'est pas simple, parce que aussi les organisations ont leur histoire. C'est vrai que l'histoire de Fairtrade, elle est ancrée plutôt dans la notion de justice sociale, etc. Et puis on y a amené des éléments. Donc voilà, je n'ai pas une réponse toute faite. Moi, je pense qu'il y a moyen à la fois de garder son âme d'organisation et son ancrage, tout en couvrant des dimensions qui sont nouvelles. Hein. Si on prend pour Fairtrade, bon, là, je le disais tout à l'heure, on peut ancrer le débat écologique dans un débat qui est un débat de justice sociale. Les deux choses sont intimement liées, mais c'est très complexe, et on a besoin aussi des acteurs. Je sais que c'est une question qui vient d'un grand acteur de la distribution en Belgique. Mm-hmm. Ils ont un rôle extrêmement important, parce qu'eux sont en face directement du consommateur, et ils peuvent aussi nous aider à travers leur communication à quelque part, j'aime pas le mot éduquer, c'est très condescendant, mais à en tout cas informer et à faire en sorte que voilà, le consommateur comprenne ces problématiques dans toute leur complexité.
Ok, très bien.
Harold, can I add a comment to that?
Yes, please, go on.
Yeah, so I just wanted to add a small comment to this messaging USP. It's interesting to see that in fair trade, whether it's in the food or the non-food sector, we were talking of environmental and ecological regulations and care for the environment 30 years ago. You know, for in the fair trade world, what we are seeing now, you know, the concern for the climate, for climate changes, this is nothing new to us. In the fair trade world, we have been doing this for years and years and years. And I think that should be part of the messaging, that this holistic approach that we are talking about, that we need to care about the ecology as well as social concerns. That was the principle of fair trade many, many years ago. In fact, in one of the WFTO principles, principle number 10, written in 1990, is care for the environment. So I strongly believe this should be message to the consumer that, hey, we are pioneers in this field.
Yeah, it was included at the very early stage, actually.
Yep.
Oké, okay, very well. Meneer Oldhoff, ik heb voor u een vraag. Ik ga ze wel in het Frans stellen. Misschien heeft u ze al gezien in de chatvenster. C'est très bien de renvoyer la balle vers les gouvernements africains pour qu'ils prennent ou renforcent des mesures protectionnistes, par exemple sur les produits laitiers ou en Afrique de l'Ouest. Il existe un tarif extérieur commun, mais dans ce cadre, dans le cadre actuel de libéralisation des marchés, n'est-ce pas illusoire? Ik laat u even de tijd. Is de vraag duidelijk voor u? Zet u even uw microfoon aan, meneer Oldhoff.
Ja. Yes, sorry. And I could not hear part of the question. I heard it was on West Africa.
Yes, it was. Let me just rephrase it. C'est très bien de renvoyer la balle vers les gouvernements africains pour qu'ils prennent ou renforcent des mesures protectionnistes, par exemple sur les produits laitiers, ou en Afrique de l'Ouest, il existe un tarif extérieur commun. Mais dans le cadre actuel de libéralisation des marchés, n'est-ce pas illusoire? I'll give the time to our interpreters to translate the question for you.
Okay, thanks okay. For repeating the question.
No worries.
And look, I think the governments have always an obligation to serve their citizens, and whether they're, and of course these are policy choices, whether you serve your consumers primarily or your producers primarily, and by setting a common tariff at a certain level, you make your implicit choices. The point that I also saw in the chat, and maybe I have to come back to that, is mm-hmm. is about dumping, and indeed dumping is not the right term. What is happening, because Europe does not export things in the rest of the world below market prices, that Europe exports, and sometimes relatively cheap, is also a matter of efficiency. And if markets are open, then it is of course a reaction by business to go to that market. There's nothing wrong with that. Now, as I said in the earlier parts, I think from a development point of view, it is extremely interesting and important to develop local milk chains in Western Africa, but also in other parts of Africa. You see that there, with increasing urbanization, with middle classes, there is a market developing, and you also see European companies actually moving towards West Africa to work with local producers in order to fill that market, rather than from Europe or from New Zealand or from Brazil or from the United States. I think that is the direction that we have to fill. And what we're trying with the European Commission and our development assistance is to work with farmer organizations, but also with governments, in order to move in that direction. That is a matter of making local value change more competitive, rather than stopping European exports or otherwise. And again, we are very happy if the common West African external tariff on milk would be different. There's from a development point of view, and from a European interest point of view, nothing wrong with that. So that is an option that's always open.
Okay. Thank you very much. We have time for one more question before we break. C'est une question pour Monsieur Lambert et j'invite Madame Maison-Haute à rebondir si vous voulez. L'émergence du commerce équitable local fait apparaître de nouveaux labels comme Prix Juste Producteur en Belgique, Agriéthique en France, le tout dans un contexte où le commerce équitable classique Sud-Nord en compte déjà plusieurs, Fair Trade, Fair for Life, WFTO, et où les consommateurs affirment qu'il y a trop de labels, qu'il est difficile de s'y retrouver. Donc, quelle est la solution? Une législation comme en France, peut-être? Monsieur Lambert.
Alors, de nouveau, on a parlé de la législation. Je ne suis pas certain que la législation soit la réponse à cette question-là, puisqu'on voit qu'en France, malgré la législation, la législation n'empêche pas n'empêche pas la prolifération des labels. Sur la prolifération des labels, je je relativise toujours un peu. C'est vrai qu'il y en a, il y en a beaucoup. Bon, ben, c'est la preuve aussi que quelque part ça fonctionne et que ça voilà, il y a une demande pour ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le consommateur finalement se simplifie aussi la vie. Hein. Il utilise ce qu'on appelle des heuristiques et il va, même s'il voit énormément de labels, il y en a finalement assez peu. Auquel il va réellement faire attention, et ceux qui connaissent pas en général, bah il va un petit peu mentalement les ignorer et pas les voir. Donc voilà, ça c'est juste un side note. On verra en fait comment l'univers des labels effectivement va évoluer dans le futur. J'imagine qu'il y a une question sous-jacente qui est de dire, mais est-ce que finalement le label le plus connu qui est je dis ça sans arrogance, c'est juste un fait. Le plus connu est le label Fairtrade, va aussi s'impliquer dans le Nord-Nord. Mm-hmm. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle on réfléchit. Mais outre l'aspect des labels, je pense que si on le faisait, je crois que la vraie question, on n'est pas une entreprise commerciale, on est une ONG. C'est-à-dire la vraie question, c'est de dire, mais est-ce qu'on apporte quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on apporte quelque chose qui n'existe pas déjà? Plutôt que de simplement avoir une logique qui est une logique de marché, simplement, et se dire on va être concurrent sur ce marché-là. C'est pour ça. Être concurrent sur ce marché-là. Donc la question, ce sera la question de la valeur ajoutée qu'on pourrait y apporter.
Très bien. Madame Maison-Haute, je vous laisse la dernière parole, tout brièvement, s'il vous plaît. Dites-moi.
Oui, alors effectivement, on a aujourd'hui une diversité de labels de commerce équitable qui retranscrit aussi effectivement une appropriation en fait par différents acteurs. Donc en France, le fait qu'on ait la partie origine France, ça rajoute peut-être encore une couche supplémentaire, mais il y a déjà effectivement plusieurs labels, même sur les filières internationales. Alors nous, on relativise aussi ce problème parce qu'on a un autre problème qui nous paraît plus important et plus compliqué, c'est qu'on a aussi aujourd'hui pas mal de marques qui font des allégations de commerce équitable sans se référer à des labels. Nous, en France, on a quand même un succès relativement important hein, de cette thématique du commerce équitable. Ça devient un argument marketing. Donc, quelque part, c'est la rançon du succès, on pourrait dire. Mais on est quand même inquiet aussi de la liberté que prennent un peu les entreprises aussi pour faire des allégations. Et aujourd'hui, nous, la loi n'impose pas en fait de recourir à un label de commerce équitable. Il faut respecter les critères qui sont dans la loi, mais on n'impose pas de mettre en place, de se référer à un label. Donc, pour nous, ça, c'est une difficulté. Et donc, vous voyez que notre loi n'est pas parfaite. Que si on en a la possibilité, on va aussi pousser pour l'améliorer sur ce plan-là. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, effectivement, c'est un débat qu'on a très fortement dans le secteur hein, sur, effectivement, comment faut-il faire évoluer ces labels, faut-il les rapprocher, enfin… Voilà, pour l'instant, on est plutôt déjà à réfléchir à des formes de collaboration plus importantes entre labels pour éviter les difficultés au sein des filières, pour éviter que des organisations de producteurs ou des entreprises aient besoin de s'engager avec plusieurs labels. Ça existe parfois, c'est parfois possible, mais il ne faut pas que ça crée des difficultés du côté des producteurs d'aller cumuler des engagements, des coûts, des coûts administratifs, ce qui est quand même… être un peu contre-productif. Donc, on est plutôt dans cette étape-là de dialogue intense entre les labels.
OK, très bien. Merci, Madame Maison-Haute. Thank you very much to each and every one of you, but our time has elapsed now for this part of this morning's webinar. I'd like to thank all of you, our panelists, for sharing your views and your knowledge with us, and of course, you, the viewers at home or wherever you are for watching us. If your question has not been answered, I invite our panelists to have a quick look at the chat window and maybe reply privately to that person. Stay tuned, because after the break we will have European Commissioner Didier Reynders talking about EU legislation on due diligence, and we will be joined by three experts in the field. I'm looking forward to see you back in about 20 minutes at 11:30 sharp. I'll see you then.